Radio Okapi. Le journal présenté par Gisèle Cage.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici le grand titre du jour. Les jeunes et leaders de Nyiragongo au Nord Kivu, victimes des arrestations arbitraires et des enlèvements des rebelles de l'AFC M23, plongeant la région dans un climat de peur et d'insécurité, des actions internationales urgentes et des pressions sur les rebelles sont nécessaires pour mettre fin à ces violations de droits humains et restaurer la paix et la sécurité dans la région. Dialogue national sur la gouvernance minière dans le contexte du conflit en RDC. Après 3 jours de travaux, les acteurs de la société civile souhaitent que les minerais se transforment en outils de diplomatie afin de développer non seulement la RDC, mais également la région. La Société nationale du chemin de fer du Congo dans la province de la Tchopo fait face à de nombreux défis opérationnels entraînant la suspension du trafic des passagers entre Kisangani et Ubundu depuis 5 ans. Aloubou Chabani, directeur intérimaire de la SNCC Kisangani, nous en parle dans ce journal. Il est notre invité. C'est tout pour les titres. Ouvrons ce journal par cette nouvelle. Lors d'une conférence de presse tenue hier jeudi, le conseiller principal de Donald Trump pour l'Afrique, Massad Boulos, a réaffirmé la position des États-Unis sur les conflits dans l'est de la RDC. Le M23 doit déposer les armes et les forces rwandaises doivent se retirer du territoire congolais. C'est notre position et elle est claire. Nous l'avons exprimée sans ambiguïté et nous continuerons à le faire, a-t-il déclaré. Le point avec Blaise Ndongala.
Au terme de sa visite de travail à Kinshasa et à Kigali, Massad Boulos, conseiller principal du président américain Donald Trump pour l'Afrique, a rendu un verdict sévère à la contre de Kigali, exigeant qu'il cesse tout soutien au M23 et qu'il retire ses troupes de l'est de la RDC. Ces exigences de l'administration Trump envers Kigali ont été exprimées lors d'un point de presse tenu jeudi dernier, quelques jours seulement après que Massad Boulos se soit entretenu avec Félix Tshisekedi à Kinshasa et Paul Kagame à Kigali au sujet de la crise sécuritaire qui prévaut dans le Kivu. Lors de son point de presse, l'émissaire de la Maison Blanche a déclaré, je cite, « Les conflits durent depuis plus longtemps, plus de 30 ans. Il est temps d'y mettre fin. » Fin de citation. À cette occasion, Massad Boulos a également souligné que l'administration Trump envisage tous les moyens économiques et diplomatique pour promouvoir la paix en RDC et dans la région des Grands Lacs. Les déclarations fortes de ces diplomates interviennent quelques jours seulement après que le pays de l'oncle Sam a déjà pris des mesures contre certains dirigeants rwandais impliqués dans les soutiens militaires de Kigali aux rebelles du M23 visant à agresser la RDC et à déstabiliser ses institutions.
Pendant ces temps, sur le terrain au Nord Kivu, précisément dans les territoires de Nyiragongo, la communauté locale est de plus en plus préoccupée par les arrestations arbitraires et les interpellations qui ressemblent à des enlèvements perpétrés par les éléments de l'AFC M23. Selon des acteurs locaux, les jeunes et le leader communautaire sont particulièrement visés par ces incidents qualifiés de chasse à l'homme. En ce mois d'avril, au moins 20 personnes, dont le chef du groupement de Roussayou, Janvier Bagoumia, sont portées disparues selon plusieurs sources à Nyiragongo. Le point avec Greta Lulendo.
D'après plusieurs témoignages recueillis sous anonymat, la situation est préoccupante et certaines personnes, notamment des jeunes, vivent dans la clandestinité. Des cas d'enlèvement, interpellations, parfois à domicile ou en dehors, sont enregistrés presque tous les jours. Des arrestations qualifiées d'arbitraires par des sources locales, car sans aucune forme de procédure et parfois dans la brutalité. D'après nos sources, ces interpellations sont liées soit à des accusations sans preuve de collaboration avec les Wazalendo, soit pour des conflits de terres ou autres entre habitants. D'autres personnes sont juste soupçonnées par les services de sécurité des rebelles en rapport avec la sécurité. Des gens sont embarqués et conduits vers des destinations inconnues dans les cachots tenus par les rebelles du M23. Les personnes arrêtées sont soumises à des interrogatoires, des passages à tabac, leurs téléphones sont minutieusement contrôlés, les appels, contacts et groupes WhatsApp dans lesquels ils interviennent, affirment des témoins. S'il n'y a pas d'éléments compromettants en rapport avec la rébellion, certaines personnes sont relâchées alors que d'autres restent portées disparues. Signalons que la population, exacerbée par ce qu'elle qualifie d'esclavagisme, a récemment dénoncé et condamner vivement ces pratiques de la part des rebelles devant quelques cadres du M23 au cours d'un face-à-face au quartier Kasika, commune de Karisimbi.
Restons au Nord Kivu. L'instabilité du taux de change impacte fortement le panier de la ménagère dans les zones occupées comme à Goma. Cette situation résulte entre autres du manque de liquidité causé par la fermeture des banques. Selon plusieurs témoignages d'habitants, les opérateurs économiques locaux indiquent que, faute de l'autorité des régulations du secteur économique, le taux de change est déterminé par ceux qui possèdent du cash et varie en fonction des services demandés au grand désarroi de la population. Vanessa Kongolo nous en parle.
D'après plusieurs témoignages à Goma, le taux d'échange du dollar en francs congolais est fixé selon les services sollicités. Pour payer sa facture d'électricité de la SNEL par exemple, pour une consommation de 10 dollars américains, le taux est fixé à 2850 francs, tandis que pour le même service dans les entreprises privées Virunga et Sokodé, le taux est fixé à 3200 francs. En outre, chez les changeurs de monnaie communément appelés cambistes, le taux est fixé à 3000 francs, alors qu'à l'achat du dollar, c'est 3300 francs. Lorsque les parents vont payer les frais scolaires dans plusieurs écoles, le taux est fixé à 3500 francs, tandis que pour le retrait de la monnaie par Mobile Money, le taux est fixé à 2850 francs. Où allons-nous finalement et qui fixe le taux sur le marché? S'exclame une mère de famille pour exprimer son ras-le-bol. La population désemparée hausse les tons pour fustiger ces désordres qui s'observent sur le marché du taux d'échange. Dans deux messages qui sont partagés sur les réseaux sociaux, la population lance un cri d'alarme pour demander à l'autorité de facto qui occupe la ville de Goma de mettre fin à cette situation qui enfonce les familles dans une grande misère.
En lien avec le pillage des minerais congolais par certains pays voisins, une nouvelle enquête de Global Witness accuse les négociants européens Traxys d'acheter des minerais en provenance des zones de conflit, notamment de la région de Rubaya dans le Nord Kivu. Publiée mardi dernier, cette enquête de l'ONG internationale révèle que cette entreprise, dont le siège social est au Luxembourg et qui pèse plusieurs milliards de dollars, a acheté 280 tonnes de coltan au Rwanda en 2024. Ben Chokuta nous en donne les détails.
Selon Global Witness, l'analyse des données commerciales et les témoignages des deux trafiquants de coltan suggèrent qu'une part importante du coltan acheté par Traxys au Rwanda est liée à la guerre en cours dans l'est de la RDC. Au total, 280 tonnes de coltan ont été achetées par cette entreprise européenne au prix du Rwanda en 2024. Traxys était l'acheteur quasi exclusif du coltan vendu par l'exportateur de minerais rwandais African Panther Resources Limited. Traxys et African Panther de leur côté ont rejeté chacune toutes les accusations, affirmant vérifier l'origine du coltan qu'ils achètent en considérant la proportion de tantale et de niobium, deux éléments du coltan. Des affirmations qui ne passent pas pour Global Witness, qui cite un rapport de groupe d'experts de l'ONU de 2015, selon lequel il existe des preuves qui démontrent qu'une fois au Rwanda, le coltan blanc de la RDC est systématiquement noirci ou mélangé avec du coltan noir produit au Rwanda comme méthode pour dissimuler l'origine de minerais de contrebande. Global Witness, dans son rapport, demande par ailleurs à l'Union européenne de rendre publiques les données commerciales des entreprises pour des raisons de transparence.
Dans le Haut-Katanga, le chef de l'État a donné le coup d'envoi hier jeudi à Lubumbashi de la 9e édition de l'Expo Béton RDC 2025 sous le thème « Le corridor sud de la RDC SADC, projet à développer et opportunité d'affaires ». Pour Félix Tshisekedi, cette rencontre est une plateforme d'échange, de réflexion et d'innovation autour du développement de nos villes et de nos corridors et des zones économiques spéciales. Suivez le président de la République, Félix Tshisekedi, dans cet extrait sélectionné par Jean Gandou.
Le développement de la République démocratique du Congo passe par un impératif, le désenclavement. Nos provinces, riches de leurs ressources humaines et naturelles, doivent être connectées les unes aux autres pour libérer leur plein potentiel. Les corridors sud, intégrés au réseau de la Communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, sont au cœur de cette vision. Ces corridors ne sont pas de simples axes de transport. Ils sont des artères vitales pour l'intégration économique et culturelle, reliant nos pôles économiques aux marchés régionaux et continentaux. Ils favorisent non seulement la circulation fluide des biens et des personnes, mais surtout la transformation locale de nos produits agricoles, miniers et industriels, ainsi que leur acheminement vers des destinations comme les ports de l'Atlantique et de l'océan Indien. Ils attirent des investissements, stimulent la création d'emplois et ouvrent la voie à une gouvernance moderne au service de nos populations.
Promotion et valorisation de la production locale pour la relance de l'économie pendant et après la crise sécuritaire en RDC, tel est le thème abordé hier jeudi à la Maison de l'entrepreneuriat à Kinshasa, organisée par Congo Business Exposition. Cette activité a rassemblé des personnalités publiques et des entrepreneurs pour discuter de l'avenir de l'entrepreneuriat en RDC. Le point avec Greta Lulendo.
L'hymne national congolais a retenti pour donner le go du lancement de la première édition de Congo Business Expo. La salle composée en majorité de jeunes entrepreneurs venait nombreux exposer leurs desiderata au ministre de l'Industrie. Dans son allocution, Louis Kabamba Watum, ministre de l'Industrie et du Développement des Petites et Moyennes Entreprises, a exhorté les jeunes à oser afin de donner le meilleur d'eux. Eliezer Tamboué, député national présent à cette rencontre d'échange, a pour sa part mis l'accent sur les défis auxquels font face les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat.
L'expérience démontre que quelqu'un peut commencer avec un capital de 1 $, mais pour l'obtention des documents, il faut 2 500 $.
Varlette Mampassi, coach et spécialisé à l'encadrement des personnes à mobilité réduite, nous parle de son livre « Guide des handipreneurs ».
Handipreneur n'est que la combinaison du mot handicap et entrepreneur. Ce sont des personnes qui entravent les difficultés pour entreprendre. Et nous, au travers de ce que nous avons mis, on leur permet de pouvoir entreprendre.
Cette matinée de réflexion s'est soldée par le dépôt d'un mémo des jeunes entrepreneurs au ministre Louis Kabamba Watum.
Je le disais dans le titre, le dialogue national sur la gouvernance minière dans le contexte des conflits en RDC s'est achevé hier jeudi à Kinshasa sur une note d'espoir. Après 3 jours d'échanges et des discussions, les acteurs étatiques et non étatiques ont convenu de plaider pour que les richesses minières ne soient plus une source d'insécurité, mais plutôt de paix et de développement pour le pays. Les explications avec Blaise Ndongala Mayanda.
Organisé du 15 au 17 avril au chapiteau de Pullman Hotel, ces assises ont offert un cadre d'échange aux acteurs miniers sur les défis de la gouvernance minière dans l'est du pays depuis la résurgence des conflits armés. Ils ont cependant proposé plusieurs résolutions pour parvenir à changer les paradigmes en mettant fin aux minerais du sang dans ces coins en proie à l'activisme des rébellions et groupes armés. Ces participants ont appelé les autorités politiques à doter les pays d'une politique minière et à développer un plan national d'exploitation minière. Ils ont également promis de mener des diplomaties citoyennes pour décourager l'économie criminelle qui se développe autour de notre pays, comme signale le coordonnateur du comité de crise pour la paix et la sécurité en RDC, Patient Bachombe.
Qu'il faut mener un plaidoyer et une diplomatie citoyenne pour pouvoir sanctionner sévèrement tous les pilleurs de notre pays qui s'aventurent à tuer nos concitoyens afin d'accéder à nos minerais.
Il a en outre préconisé que les minerais puissent participer aux solutions au conflit qui sévit dans la partie est du pays. Des acteurs de la société civile ayant pris part à ces forums ont souhaité que les minerais se transforment également en outils de diplomatie afin de développer non seulement la RDC, mais également toute la région des Grands Lacs.
Accord RDC Fonds monétaire international. Les indicateurs du cadre macroéconomique sont au vert pour la conclusion de la première revue des programmes de facilité élargie de crédit et de facilité pour la résilience et la durabilité. C'est ce qui ressort de la Troïka politique organisée hier jeudi au centre financier de Kinshasa sous la présidence conjointe du ministre de Finances Doudou Mfouamba et du ministre d'État au budget Aimé Boji. Lors de ces assises, les experts congolais ont planifié une participation efficace de la RDC aux assemblées de printemps du FMI et de la Banque mondiale tout en veillant à préserver l'image du pays auprès de ses institutions. Écoutons le coordonnateur du comité technique de suivi et d'évaluation de réforme, Félicien Moulenda, au micro de Michel Kifindangoy.
On a passé en revue la situation du programme avec le Fonds monétaire international. Sur ce plan-là, dans la perspective de la première revue, les indicateurs sont au vert. Sur le plan des critères quantitatifs, l'essentiel des critères, c'est-à-dire des engagements en termes monétaires, l'essentiel des critères sont respectés. Il y a un seul critère qui n'a pas été atteint, du fait, vous en doutez, de la montée de l'augmentation des dépenses sécuritaires. Et ça, c'est justifié par les contextes des guerres que le pays vit et que le gouvernement n'a d'autre choix que de mettre en œuvre, d'utiliser tous les leviers pour défendre le pays. Et du côté des repères structurels, là également, des progrès sont enregistrés. L'essentiel des repères pour le premier trimestre et le deuxième trimestre, du moins pour le premier trimestre, ils sont réalisés. Et ceux du deuxième trimestre sont en cours de réalisation. Et donc là, la Troïka politique a noté avec satisfaction que la première revue ne devrait pas poser de problème.
L'invité.
Notre invité aujourd'hui est Aloubou Chabani, directeur intérimaire de la SNCC Kisangani. Il nous parle des défis majeurs auxquels cette société ferroviaire congolaise est confrontée, dont la Tchopo. Ces difficultés ont entraîné la suspension du trafic des passagers entre Kisangani et Ubundu depuis 5 ans. Dans cet entretien avec Jacques Moukonkolé, il partage les solutions envisageables pour revitaliser les activités de la SNCC. Suivez.
Monsieur Aloubou Chabani, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes le directeur intérimaire de la SNCC Kisangani. Quel est l'état des lieux que vous pouvez établir aujourd'hui, que votre société?
Bon, notre état des lieux actuellement, en tout cas, c'est un état difficile. Du fait que nous avons d'abord un chemin de fer qui a fait déjà plus d'un siècle. On a inauguré ce chemin de fer, c'est depuis 1904. Et jusqu'aujourd'hui, vous-même, vous pouvez faire des calculs, vous connaîtrez combien d'années ce chemin de fer existe.
Donc c'est depuis un siècle que ce chemin de fer est opérationnel?
Oui, c'est depuis un siècle, c'est depuis l'époque belge jusqu'aujourd'hui, ce chemin de fer est opérationnel, mais dans un état piteux.
Et comment vous pouvez présenter cet état-là?
Bon, cet état-là, je peux vous donner à travers nos difficultés. Parce que à l'époque, quand tout allait bien, on quittait le matin à 7h, à 15h, vous êtes au Bundu. Maintenant, actuellement, nous faisons 24 à 36 heures pour parcourir 125 kilomètres seulement.
Et là, le train roule à quelle vitesse?
À l'époque, on roulait à 20 à 25 kilomètres à l'heure. Mais actuellement, nous roulons à 5 kilomètres à l'heure. Si on cherche à dépasser, on déraille. Pour éviter le déraillement, nous roulons vraiment à une petite vitesse. Et c'est pour la machine fait 24 à 36 heures.
Alors, quels sont les grands défis que vous connaissez?
Les grandes difficultés, c'est la vétusté du matériel, la vétusté de la voie. Et si on réhabilite la voie, on réhabilite les locomotives. Et en tout cas, là, nous travaillons comme partout à travers le monde.
Ce sont là les solutions que vous envisagez.
Oui, il faut réhabiliter la voie pour qu'on puisse atteindre une fusque. La vitesse ancienne est de 25 km à l'heure. Et là, on n'avait pas de difficultés. Malgré la quantité de marchandises que nous pouvons disposer, on a des locomotives fiables, on a des wagons fiables, on a la voie fiable. En tout cas, il n'y aura même pas de plainte de la clientèle.
Donc on peut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de trafic entre Kisangani et Ubundu par train.
Bon, le trafic existe, mais qu'est-ce que nous pouvons appeler trafic? Le trafic, parce que quand il y a des plaintes des clients, il y a des wagons qui font 2 ou 3 mois en gare, parce qu'on ne sait pas les évacuer. On ne sait pas les évacuer par manque de locomotives fiables. C'est là où nous disons, bon, nous faisons semblant de faire un trafic, mais ce n'est pas un trafic selon les normes internationales.
Depuis quand ce trafic connaît de problèmes est suspendu?
Les trains passagers, c'est depuis 2019 que le trafic voyageur a été normalement suspendu par manque de voitures à voyageurs.
Le trafic commercial, le train marchandise, ça existe?
Oui, c'est ce que j'ai dit. Le train voyageur est suspendu par manque de voitures. Mais le train marchandise roule jusqu'aujourd'hui, mais à petite vitesse.
Et alors, il y a des sites coréens, Mascotte Énergie Construction, qui annoncent la réhabilitation de la voie ferrée qui s'est gagnée au Bundu. Comment réagissez-vous à la SNCC?
En tout cas, ça, c'est pour nous, c'est une grande bénédiction. C'est vraiment une très grande bénédiction parce qu'ils nous promettent de moderniser notre chemin de fer. Vraiment, nous disons vraiment merci aux parents célestes d'abord et merci au gouvernement qui est en train quand même de se démener pour penser à la réhabilitation de notre chemin de fer qui s'est gagné au Bundu.
Si cela est fait, qu'est-ce que ça peut rapporter?
Le social, normalement, des Congolais va vraiment toucher vraiment les tops que nous entendons, nous aspirons tous. Parce que quand vous faites 125 kilomètres, vous faites plus de 24 heures, plus de 36 heures. Maintenant, ce n'est plus un voyage, ça devient un calvaire. Et c'est ce que nous demandons, que cette histoire-là puisse se matérialiser. Vous quittez le matin, le soir, vous êtes au Bundu sans problème.
L'impact sera certainement d'ordre social et même d'ordre économique.
carrément, certainement, d'ordre économique et d'ordre social, voire même des crises, même les familles vont quand même augmenter leur état social, va augmenter certainement.
Avez-vous un message?
Bon, le message est que seulement que je peux dire aux autorités qui ont pris l'initiative d'envoyer les Coréens pour réhabiliter les tronçons Kisangani au Bundu, que vraiment ce projet puisse se matérialiser, car ça sera vraiment le salut pour les Boyomais.
Monsieur le directeur intérimaire de la SNCC, Alou Bouchabani, merci.
Notre invité s'entretenait avec Jacques Moukonkolé depuis la ville de Kisangani. Ainsi s'achève ce journal sur Radio Kapi, à la mise en onde de Pierre Diassinois, à la supervision Pélékipé Lamondo et à la présentation Gisèle Cage. Nous vous remercions de votre fidélité et de votre attention. Restez connectés avec nous sur WhatsApp via le lien disponible sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez également consulter notre site www.radiookapi.net pour être à la page. À très bientôt pour un nouveau journal sur Radio Kapi.